Le chaos comme force créatrice vitale. Il faut du chaos en soi pour enfanter une étoile dansante.
Je vais quand même le mettre dans, à un moment donné dans le podcast. Ça.
On dirait le masque et la plume, genre.
Ça se trouve, le montage, il va être chaos, les gars.
Mais non, parlons vieux français. Mais alors, c'est une vérité assourdissante. Aristote disait.
Oui, pas t'as raison. Ah ouais,
par contre, frère, t'as une, tu devrais faire du doublage, genre.
Ah ouais?
Du doublage de trucs chiants. De dessins animés. Ou de trucs chiants.
Samy.
Fais la voix Scooby. De. Comment il s'appelle dans les filles?
Le fille.
Ah, ah
ouais. Ouais, de fou.
Je me suis fait whooper.
J'ai cru que je me suis fait. Là, c'est vraiment chaotique en fait ce qui est en train de se passer. Genre, il faudrait peut-être se mettre à faire un vrai podcast.
Attends, les gars, c'est la fin de l'année et tout. Enfin, ça se termine. On va retrouver de l'ordre. T'as capté ou pas? Est-ce que t'as capté?
Il a à prendre un générique. Être femme, ce n'est pas
une donnée essentielle, biologique.
Il n'y a pas d'une histoire, il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.
Je pense en effet que le rôle d'un philosophe, c'est de déranger. Un philosophe qui arrangerait, qui réarrangerait les choses, ne jouerait pas, je crois, le rôle qu'on doit jouer actuellement. Le philosophe et la philosophie. Mais on ne dérange jamais assez, enfin. D'avoir dérangé bien peu et bien moins que je n'aurais voulu.
À vrai dire, au jardin, je n'aime bien travailler, car je suis littéralement absorbé par les formes, les couleurs, la lumière, et je préfère l'ombre du bureau pour écrire.
Le vrai amour a toujours la possibilité de renoncer à tout ce qu'il faut, à tout ce qui est à moi, tu vois, pour quelqu'un d'autre. Je suis responsable de la misère d'autrui, même souvent de la bêtise d'autrui.
Bienvenue sur Radio Piole.
Petit bazar de fin d'année, nous avons montré comment nous n'arrivions pas à faire une intro tellement on n'arrive plus à parler après cette
on
fin d'année.
On n'arrive plus à penser.
Qui a été fatiguée, ouais. Fatigante, ouais. À penser. Ce podcast va être chaotique comme le thème finalement, parce que on est épuisé.
Parce qu'on aime bien le bout des concepts surtout.
Et parce qu'on aime bien vivre les concepts finalement. La philosophie, c'est pas qu'une pensée, c'est une manière de vivre, c'est une pratique.
Putain, une pratique finalement.
Oui. Si on n'a pas la philosophie. C'est de la vie, la philosophie.
Bah ouais. Voilà, ça n'a pas d'intérêt finalement.
Amen. Donc.
C'est une religion carrément.
On va s'en séparer. Oui. Okay.
Bref, mesdames et messieurs, aujourd'hui le podcast sera sur le chaos avec Marianne, Lancelot et moi-même Lou.
Eh oui.
Yo. Mais du coup, d'abord, on pourrait commencer quand même par définir ce que c'est que le chaos, histoire de comprendre un petit peu où est-ce qu'on va, malgré le fait que ce podcast a pour vocation d'être chaotique. C'est un peu la DA qu'on a décidé de...
Ouais, de changer de ce qu'on fait d'habitude pour le mettre un peu plus en mode...
C'est ça. Ouais. Mais du coup, je sais pas si vous aviez regardé un petit peu les définitions, mais moi, ce que j'ai vu, c'est que le chaos, en grec, ça voulait dire béance, de base. Voilà, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que c'est la béance? C'est un espace infini, impossible à... C'est un peu une sorte de... Quand on dit une plaie béante, c'est une plaie qui peut pas être refermée. Ça. Donc, c'est un espace qu'on peut pas combler. Et c'est un peu considéré comme ce qui est à l'origine du monde, ce qui est avant même le monde. Donc, c'est même pas l'origine du monde, c'est le vide.
Mais c'est ça.
Le vide originel, quoi. Et donc, c'est super intéressant déjà de se pencher sur cette définition. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, mais vraiment, moi, par exemple, pour compléter, je sais que j'ai trouvé un petit article que j'ai lu, il était très intéressant. Et Hésiode va définir la pensée du chaos en expliquant que c'est la première réalité qui existe avant Gaïa. Donc avant
la déesse de la terre.
Ça.
Donc avant l'ordre cosmologique.
Ouais.
Et l'ordre cosmologique, c'est selon la mythe, enfin dans la mythologie grecque en tout cas, l'ordre du monde et la manière dont Dieu, enfin les dieux
ont organisé
le monde et ont décidé. Enfin en fait, c'est la croyance en la cosmologie, c'est aussi la croyance en le fait que tout a sa place dans le monde et donc il y a un vrai ordre prédéterminé aux choses et c'est pas juste justement un monde où il y a plein d'éléments qui sont un peu là par hasard, il n'y a pas de contingence en fait dans un ordre cosmologique, c'est l'ordre. Et donc ça nous mène directement à cette opposition entre chaos et ordre qui est super intéressante finalement.
Mais justement les Grecs, ils pensaient que le chaos était légitime, enfin était nécessaire pour légitimer l'ordre. Parce que s'il n'y a pas de chaos originel, Du coup, bah, il n'y a pas de raison à placer de l'ordre. Ouais. C'est à partir de là où ils vont penser Dieu, où ils vont penser un ordre au monde et tout ça, et même la
déesse. C'est leur manière à eux d'expliquer le fonctionnement de leur société, le fonctionnement, le pourquoi du comment finalement.
Mettre un fondement légitime qui serait d'origine mettre un ordre dans un chaos.
C'est ça. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'en plus, cette définition du chaos qui est en fin de compte un vide, béant, tu vois, c'est ce que tu disais, Marine. Il n'est pas que présent dans les pensées grecques ou antiques, mais aussi dans la Bible. Donc, pour le fondement même de nos sociétés à nous, encore actuelles, le chaos est défini simplement comme une perte d'ordre, en fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que peut-être toutes les sociétés, dans leurs racines anthropologiques, ont la même définition du chaos.
Plus ou moins. Après, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que tu viens de dire que c'était une perte d'ordre. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans la première définition que j'ai donnée, c'était pas une perte d'ordre, c'est juste l'absence d'ordre, puisque l'ordre n'a pas encore existé.
Ouais.
Donc en fait, je pense que ce qui est intéressant aussi dans la notion de chaos, c'est que t'as d'abord, enfin, ça arrive avant et après l'ordre. Et du coup, peut-être aussi qu'on peut se dire, on peut se demander, c'est une réponse, dans tous les cas, c'est très méta la réflexion autour du chaos. C'est des questions auxquelles on pourra pas forcément répondre, mais est-ce que c'est le même désordre? Est-ce que c'est le même chaos, en fait, le chaos qui est avant l'ordre et celui qui est après l'ordre? Est-ce que justement, même, là c'est une question très méta, mais est-ce que le chaos avant l'ordre originel, c'est du désordre? Ou est-ce que c'est vraiment juste un truc inimaginable? Je pense que c'est pour ça aussi, tu vois, que les Grecs ont quand même distingué, je pense, la notion de chaos et la notion de désordre. Dans le sens où le chaos, c'est vraiment une béance. Une béance, c'est quand même ultra particulier. Enfin, c'est un truc, c'est quand tu penses par exemple à l'univers, en fait c'est l'infini qu'on peut pas explorer, l'absence. Enfin bon, après je suis pas ultra calée en physique, mais enfin je sais pas si vous avez regardé Interstellar, mais genre c'est tout ce truc du trou noir, genre où en fait c'est l'absence de matière, c'est l'absence de vie, de tout. Enfin c'est juste le rien quoi. Donc c'est super intéressant, tu vois, se dire, et c'est un peu contre-intuitif aussi parce que du coup comme tu disais. Nous, on a une conception du chaos qui est très liée au désordre et donc, du coup, au côté bordel, incohérence, et donc à l'idée peut-être qu'il y aurait plein de choses, tu vois, qui s'entrechoquent les unes entre les autres, qui se rentrent dedans, qui ne fonctionnent pas, etc. Mais en fait, là, du coup, on a carrément une autre définition qui n'est pas du tout liée à cet entrechoquage-là, tu vois. C'est vraiment, c'est vraiment penser le rien, quoi. Penser le chaos aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant.
Mais c'est pour ça, et pour rebondir sur ce que tu disais un petit peu avant, il y a la phrase de Nietzsche qui est connue, en plus on en a discuté juste avant, qu'il a écrit dans Ainsi parlait Zarathoustra, enfanter une étoile, enfin, comment dire, il faut du chaos, c'est ce qu'il a écrit, en soi, pour enfanter une étoile dansante. Mm-hmm. Donc en fin de compte, le chaos, c'est pas le vide, mais c'est plutôt l'énergie brute du devenir. Mm-hmm. Et donc là, ça revient à ce que tu disais, tu vois, alors est-ce que le chaos qui est avant le cosmos ou après le cosmos est différent? Enfin, après l'ordre, oui, non, en fait, c'est une réalité qui se change. Dépendamment des positions en fait. Et tu parlais des scientifiques, ce qui est intéressant c'est qu'il y a Lorenz, un mathématicien mais scientifique du 20e siècle, pour lui, et je vais reprendre précisément parce que je ne suis pas mathématicien, je dois éviter de faire des erreurs, mais le chaos pour lui c'est pas l'absence d'ordre mais un ordre trop complexe pour être naturellement compris et prédit. Il prend l'exemple de l'effet papillon et c'est ça. Et de ça, il fait un rappel en percevant l'idée que une infime variation initiale produit des effets radicalement différents. Voilà. Et donc le chaos est une sensibilité aux conditions initiales. Et on peut prendre même l'exemple de la météo, tu vois, quelque chose qu'on connaît beaucoup plus de manière quotidienne. Enfin, c'est dans notre quotidien. On ne sait jamais est-ce que la météo est sûre, est-ce que ce qui va être prédit va vraiment exister. En fait, c'est une réalité, ce n'est pas nécessairement un chaos.
Et en fait, du coup, ça place l'ordre aussi au rang d'illusion. Et je trouve que la météorologie, c'est vraiment typiquement la science qui montre que rien n'est vraiment ordonné et qu'on ne peut pas entièrement... Parce qu'en fait, je pense que l'ordre aussi, il faut le définir. C'est quoi l'ordre? C'est aussi la tentative, du coup, de faire sens et de mettre du sens dans quelque chose qui, de base, l'est pas. En tout cas, ordonner, l'action d'ordonner, c'est ça. Mettre de l'ordre, c'est l'action de mettre du sens dans quelque chose qui n'en a pas de base.
Ouais.
Mais du coup, cette théorie-là dont tu parles, ça prouve que même l'ordre, en fait, il y a toujours une part de chaos dans l'ordre. C'est ça qui est intéressant aussi. Et de voir que... à l'inverse, on peut se dire que le chaos, ça peut être aussi un peu ordonné d'une certaine manière. Parce que dans cette théorie-là, j'ai regardé une vidéo aussi qui parlait de cette théorie-là. Et j'ai essayé de comprendre tant bien que mal parce que j'ai pas forcément un cerveau très mathématique. Mais c'était intéressant parce qu'il expliquait que donc c'est le fameux effet papillon. l'idée qu'un papillon peut être à l'origine d'une tornade, genre un papillon au Brésil peut être à l'origine d'une tornade aux États-Unis, tu vois. Ouais. Et l'idée que avec l'effet papillon, ça va entraîner, je sais pas, un effet d'inertie et voilà, bam, une tornade. Et justement, il y a ce gars-là est venu contredire un peu ça, enfin limiter ça en disant oui, mais en fait, il peut aussi y avoir un autre papillon, genre en France, qui va ralentir, genre retarder l'apparition de la tornade. Mais par contre, ce qui est intéressant, ce qu'il explique, c'est que ça va pas faire disparaître la tornade. Genre, elle va quand même arriver. Juste, ça va déplacer les conditions dans lesquelles elle va émerger, etc.
Mais c'est ça. C'est totalement l'idée qu'on a avec l'idée, tu vois, quand on parlait de la météo, en fait, c'est que une infime variation peut faire changer la réalité qui va arriver, mais ça ne la supprime pas, en fait. Donc ça, c'est intéressant.
Et du coup, ça veut dire qu'il y a une forme d'ordre dans le chaos, genre.
Ouais.
Parce que c'est chaotique, enfin, c'est pas un truc qu'on a envie de voir arriver, une tornade. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure, Lou, t'en parlais aussi des événements météorologiques et du côté le tsunami qui est chaotique, etc., qui crée du chaos sur son passage. Mais en fait, du coup, est-ce que c'est vraiment chaotique s'il y a une forme de prédétermination par d'autres événements, tu vois? Il y a quand même une forme d'ordre. Donc c'est intéressant quand même de se poser cette question-là aussi. Enfin voilà, est-ce que le chaos existe tout simplement?
Après, il y a peut-être plusieurs chaos aussi. Genre un chaos originel pour permettre le fondement et un chaos qui viendrait peut-être après le chaos.
Un chaos qui serait plus un chaos créé de toutes pièces.
Ouais.
Un chaos humain.
Je pense un chaos nécessaire pour pouvoir mettre de l'ordre et en fait que l'ordre lui-même serait un chaos parce que c'est impossible qu'il y ait un ordre total.
Je pense que cette idée de chaos nécessaire, elle est super intéressante. Ça va avec l'idée qu'on a. Que nous, les humains, on a besoin de faire sens. Ce que tu disais de base, genre les Grecs, ils ont eu besoin de penser à un chaos pour pouvoir expliquer l'ordre qu'ils ont mis en place après. C'est l'idée vraiment, encore une fois, qu'on essaie de mettre de la nécessité dans quelque chose d'absurde, parce que la définition, hein, par définition même, le néant, le rien, c'est quelque chose d'absurde. Et c'est intéressant d'essayer d'y mettre une nécessité aussi. Enfin, je pense que c'est... T'as raison, genre c'est nécessaire, limite, de penser à un chaos nécessaire pour pouvoir ensuite penser... une société qui puisse fonctionner, qui puisse avoir un sens.
Mais qu'elle elle-même un chaos encore, finalement. Parce qu'en fait, elle a un sens que parce qu'on choisit de penser que c'est ça le bon ordre.
Oui, et parce qu'on aussi. On essaye de créer... En fait, c'est ce qu'on fait en permanence. On essaie de créer du sens, de créer des rouages qui fonctionnent bien les uns avec les autres et de créer, justement, un effet papillon, mais de contrôler cet effet papillon, en fait.
Ouais.
C'est comme Rome. C'est l'une des seules sociétés antiques qui font des refondes sa cité. Donc en fait, il n'y a même pas de chaos, c'est juste comme si c'était une éternelle boucle de refondement, alors que pourtant, ils croient en Gaïa, tu vois, parce que Romulus et Rémus, c'est romain, non?
Ouais.
Ils croient en Gaïa, donc ils croient en un ordre, et pourtant, ils refondent de manière perpétuelle leur société, comme s'il y avait un chaos perpétuel pour refonder. Mais en même temps, le refondement, c'est aussi faire grandir la société, tu vois. Donc c'est un mélange de tout où... Ils pensent à l'ordre, ils y croient, mais en même temps, il n'est pas figé dans une seule manière et qu'ils détruisent pour reconstruire.
Ouais.
Mais tu vois, comme on a dit, genre la destruction, ce n'est pas non plus le chaos, parce que le chaos, c'est un vide. Là, il n'y a pas un vide, il ne parle pas de rien. Mm-hmm. Mais en même temps, il y a une forme de désorganisation, de bazar qui permet après de réorganiser mieux, entre guillemets. Mais c'est même la révolution en soi. Enfin, si on en vient là, c'est pareil. La révolution, c'est un chaos pour remettre en place... un ordre, mais cet ordre au final tu t'y habitues et après encore une fois
tu le remets en place.
Tu le remets en place. C'est toutes les théories du contrat social qui disent que la révolution c'est pas la solution.
Ouais.
La révolution c'est la solution.
mais c'est super intéressant et en vrai ce que tu dis là c'est au final ce qui se passe aussi actuellement. Enfin d'une certaine manière c'est ce qui se passe. Enfin c'est le cours de l'histoire aussi, l'idée de créer, enfin de saper les fondements de quelque chose pour recréer d'autres fondements. C'est ce qui est arrivé avec genre juste on est à la 5e République là, donc déjà rien que pour le système républicain il y en a eu 5 différents.
Je trouve que le chaos ça se montre très bien politiquement. Si on passe de république en république, comme tu dis, c'est que ça prouve qu'il y a un besoin d'évolution et de reconstruction nécessaire. Mais si c'est pas genre la 3e République avec juste un nouveau gouvernement, mais que c'est bien une autre république, c'est qu'il y a bien eu un chaos et une nécessité de refonder.
Et du coup, il y a en fait, le besoin de construction s'accompagne nécessairement du besoin de chaos, comme tu disais, en fait.
C'est ça. Le dionysiaque, il me fait penser au chaos parce que c'est le dieu de la fête.
Ouais.
Et du coup, c'est l'apollonien.
L'apollonien.
L'apollonien, qui est l'ordre et tout ça. Et en fait, les deux vont en duo. Dans beaucoup de représentations, ils vont les figures d'Apollon et de Dionysos, de la mythologie grecque. Ils sont souvent représentés ensemble parce qu'en fait, ils vont de pair. Donc en fait, c'est marrant de voir en quoi le chaos, le bazar, l'irrégulier, entre guillemets, va de pair avec quand même une idée de l'ordre.
Il y a l'idée, ouais. En fait, en tout cas, dans mes souvenirs, il y a l'idée vraiment que Nietzsche, enfin, comme tu disais, que les deux soient un peu indissociables et qu'il faut que, d'abord, en fait, le truc originel, c'est le dionysiaque. Et c'est genre l'énergie créative, etc. Et ensuite, par-dessus, il faut réussir à mettre un petit peu d'ordre et de rigueur, canaliser ce chaos, entre guillemets.
C'est ça.
Et ça, c'est super intéressant aussi de se demander. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'un chaos peut être ordonné? Est-ce que nous-mêmes, en tout cas, est-ce que c'est possible d'imposer un ordre au chaos aussi? La météorologie, par exemple, ça montre qu'il y a des limites à ça, parce qu'en fait, il y a des choses qu'on ne pourra jamais prévoir. Mais à une échelle peut-être plus interpersonnelle, à une échelle... l'échelle de l'individu, en fait.
Ben c'est ça. Mais après, en plus, surtout, ce qui est intéressant, c'est de se demander est-ce qu'on a envie de résoudre ou est-ce qu'on peut même résoudre le chaos. Et ce qui est drôle, c'est que ça, c'est beaucoup de questionnements qu'ont abordé des auteurs. C'est pas ni du pessimisme, ni du nihilisme. Enfin, je ne saurais pas où le placer, quand même. Mais par exemple, Suran, lui, il dit beaucoup que le chaos, c'est quelque chose au travers de laquelle on doit s'habituer à vivre. Parce qu'on fonctionne et on vit, on continue de vivre, surtout avec le chaos. Et là, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, Lou, sur cet aspect romantique du chaos, de l'amour, de comment on trouve du beau, en fait, peut-être, c'est ce que tu souhaitais dire.
Du sublime.
Voilà, bah, c'est ça, c'est Chateaubriand de fou, tu vois. Mémoire d'où tout tombe et tout, c'est vrai que c'est un truc qu'il aborde où il dit que le chaos, c'est aussi le mal du siècle, tu vois. Et parce que c'est un chaos romantique. Du coup, ça fait grave écho avec ce que tu viens de dire.
Mais c'est intéressant, tu vois, moi ça me fait penser à Deleuze aussi, du coup, qui, dans Qu'est-ce que la philo, parle justement du chaos. Et il y a une super belle citation, si vous voulez, je vais
la
lire, qui va du coup avec ce que tu disais aussi, la mise en avant de la nécessité du chaos et de la beauté aussi du chaos, d'une certaine manière. Nous demandons seulement un peu d'ordre pour nous protéger du chaos. Rien n'est plus douloureux, plus angoissant qu'une pensée qui s'échappe à elle-même, des idées qui fuient, qui disparaissent, à peine ébauchées. Nous perdons sans cesse nos idées. C'est pourquoi nous voulons tant nous accrocher à des opinions arrêtées. Mais l'art, la science, la philosophie exigent davantage. Ils tirent des plans sur le chaos. J'adore cette expression. Ces trois disciplines ne sont pas comme les religions qui invoquent des dynasties de dieux ou l'épiphanie d'un seul dieu pour peindre sur l'ombrelle un firmament dont dériveraient nos opinions. La philosophie, la science et l'art veulent que nous déchirions le firmament et que nous plongions dans le chaos. Nous ne le vaincrons qu'à ce prix. Donc c'est super intéressant.
Mais je pense que, tu vois, quand il dit la philosophie, la science et l'art, la science, je sais pas pourquoi j'ai du mal à le voir comme ça.
Comme quoi ?
Si, parce que pour moi, c'est aussi des disciplines créatives. En fait, je pense que dans ces trois pôles-là, il y a l'idée de la création et l'idée que la création, elle peut advenir que si on accepte de se plonger dans l'absurdité, dans le néant de certaines choses et dans les manquements, tu vois, des choses.
La science, c'est comprendre le monde, donc du coup, c'est comprendre le chaos d'une certaine manière, si tu le comprends pas. Donc tu mets des lois sur un chaos, genre on le voit bien en physique, on le voit bien dans tout ça. La philo, je pense que tu plonges dans le chaos parce que tu plonges dans une réflexion qui va au-delà
du même. Tu questionnes les conditions du réel, en fait.
C'est ça, donc c'est encore plus...
Les conditions d'existence du réel, de développement du réel. Et en fait, à chaque fois, je pense que la démarche est toujours la même, c'est vraiment la démarche de te plonger dans le néant et d'essayer de résoudre ces manquements-là, ces absences-là du langage, de la pensée, ou ces absences physiques qu'on peut pas expliquer, ou, tu vois, pour l'art, vraiment, encore une fois, les choses qu'on n'arrive pas à représenter, essayer de dépasser ça, et du coup, c'est ce qu'il disait, ce qui est trop intéressant, c'est le côté vaincre le chaos.
Ouais.
À la fois, il faut se plonger dedans et le vaincre, et je trouve ça super intéressant comme
paradoxe. C'est un peu comme
paradoxe.
Un conflit, une ambiguïté, alors qu'en fait, les deux vont de pair, même si...
Ouais.
Tu voulais dire mais un truc
non, moi, je trouvais pas que... Enfin, j'arrive pas à me rendre compte de l'objectif, en tout cas de l'idée de dire qu'on souhaite vaincre le chaos, tu vois. Parce que pour reprendre ce que tu dis, l'art, la musique, enfin bon, pas nécessairement la musique, même si ça rentre évidemment dans de l'art, donc en fait quand je dis l'art, ça l'incombe, mais la science, tu vois, les maths, tout, je trouve que c'est pour mettre une distance au chaos. Et la philosophie, c'est pareil. En fait, on rentre dans le chaos, on le questionne pour toujours essayer
s'en éloigner.
Mais même pas de s'en éloigner, juste de lui repousser ses frontières, tu vois.
Ouais.
Et que ça soit dans le monde des idées, des
tout
maths,
en reconnaissant qu'on n'arrivera jamais à le supprimer complètement.
C'est ça. Mais et je trouve que et donc ça fait. Alors là, c'est juste peut-être l'esprit un peu tordu, mais ça fait très colonisation de l'ordre, tu vois. Ça veut dire que l'individu que nous sommes, que nous êtes, enfin, on n'arrive pas en fait à vivre dans le chaos, dans le désordre. Donc ce qu'on veut, c'est appliquer de l'ordre partout. Donc on veut comprendre malgré nous ce qui est incompréhensible, au-delà même de notre perception, à travers la science. Ça c'est quelque chose qu'on sait tous, tu vois. L'art c'est pareil, c'est une question de représenter des sentiments, des affects, des événements, mais il y a des choses qu'on va comprendre à travers un tableau qu'on ne comprendra jamais à travers des mots, en fait. Donc on essaie de tout faire pour essayer de créer une distance entre nous et le chaos, je trouve.
Ouais, mais en fait, après... là, c'est plus la réflexion méta sur notre entreprise, vis-à-vis du chaos, quoi. Ouais. Mais je pense que ça, c'est plus, tu vois, je pense, ce que tu dis, je suis ultra d'accord avec ça. Je pense que c'est un peu un jugement que nous, on pose a posteriori sur notre démarche. Mais je pense que quand t'es engagé dans cette démarche-là, il y a une vraie curiosité de comment je peux, par quel moyen je peux trouver, justement, quel moyen je peux trouver, en fait, pour élucider ce mystère. Ouais, en fait, c'est un peu le mystère de l'existence.
Sur mais surtout qu'il y a plein de prismes différents. Tu vois, il y a la philo, il y a la science, il y a l'art. Mais même l'art en lui-même a tellement de manières différentes d'exprimer. Que ce soit le chaos ou non d'ailleurs, mais juste genre des émotions pour toucher à la sensibilité de chacun, tu vois. Mmh. Et dans l'art, je pense notamment, je rattache encore ça à l'opéra, mais parce que dans l'opéra, la voix, elle a à aucun moment la volonté de mettre de l'ordre. C'est justement tout sauf ça, c'est vraiment la volonté de mettre du désordre. C'est pour ça que quand arrive...
Et c'est un désordre maîtrisé.
Mais c'est ça. Donc du coup, ça reste une distance. C'est pas l'idée de moi. Enfin, quand j'ai dit distance, c'était pas pour dire qu'on veut mettre de l'ordre là où il y en a, ou alors on pense qu'il n'y en a pas. C'est vraiment de créer une distance. Genre, on fait, tu sais, une sorte d'état tampon.
Bah,
en fait,
c'est
avec
une tentative de contrôle aussi, je pense. Ça, ouais.
Mais quand quand je dis un chaos, c'est même pas. C'est la voix elle-même le chaos. C'est le hurlement qui va faire ressentir. Mmh. C'est plus là, je te parle de la sensibilité. C'est vraiment une création de chaos dans le sens où c'est. Enfin, la voix, elle a été comparée à un sublime dans le sens où elle est comparée à une émotion telle que t'arrives même. Tu perds.
Ça, c'est super intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser à l'effet papillon dont on parlait tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire que le papillon, c'est la voix. Et après, la manière dont ça va résonner dans l'oreille, dans les oreilles des gens, que ça va, tu vois, impacter leur corps, etc., leur ressenti sensible, bah, c'est exactement ça, en fait. C'est la tornade, tu vois. C'est-à-dire que ça crée une sorte de vague d'émotions qui est incontrôlable et qui va être plus ou moins forte, plus ou moins. Ouais. Et tu vois, tu peux chanter face à un public et avoir une voix très touchante pour certaines personnes et être face à d'autres personnes qui ne se passe absolument rien.
Ouais.
Et en vrai, est-ce que c'est du coup est-ce que le chaos est encore là d'ailleurs ? Ça c'est intéressant aussi, tu vois. Si la tempête n'advient pas, est-ce que le papillon à lui seul peut, tu vois, genre est-ce que la voix elle contient quand même du chaos ou est-ce que c'est l'effet que la voix produit qui crée le chaos ?
Ouais.
Vous voyez, c'est super intéressant. Et je me dis, moi je pencherais sur du côté peut-être me dire bah oui en fait genre la comme tu disais la voix en elle-même déjà a une portée chaotique, et parce que pour la chanteuse elle-même, même si elle met du contrôle dans sa voix, même si elle essaye de sublimer ce qu'elle fait, etc., il y a toujours une part d'indompté, d'incontrôlable, de... Enfin, et donc en fait, le fait qu'elle touche les gens ou pas, c'est encore autre chose, en fait. Déjà, à l'échelle 1, en fait, et c'est l'idée, du coup, peut-être aussi qu'en chacun de nous, on porte un chaos. Et ça, je sais pas, c'est assez intéressant aussi.
Si, mais moi je suis totalement d'accord avec ça.
Ouais.
L'idée de vraiment qu'on porte un chaos pour créer ensuite, tu vois, c'est ça du coup en fait, l'idée de la
Dionysiaque, etc.
Bah ouais, c'est qu'il y a forcément à l'initiative de toute création, de tout élan vital, du coup, si on doit faire en mode Bergson vibe, bah genre, il y a évidemment un chaos. Genre.
Ouais,
en fait, quand je parlais de la voix, je parlais. En fait, c'est qu'à chaque fois, j'oublie les termes, ça me saoule. Mais c'est Aristote qui dit la phoné, c'est la voix, et le logos, c'est genre la raison, c'est ça ?
Ouais.
Oui, voilà. Mm-hmm. En fait, c'est ce qu'il dit. Il dit que la phoné, c'est la voix, mais c'est la voix qui s'oppose à la raison. Et il attache la phoné aux femmes, et du coup, le logos aux hommes. Et que du coup, la voix de la cantatrice à l'opéra, ou juste même la voix de la femme dans des discours politiques ou ce genre de choses, serait d'ordre de la phonée, donc juste dans des discours séduisants et qui mènerait au chaos, parce qu'en fait, qui serait là pour séduire et mettre un désordre dans le logos, qui serait la matière de l'homme. Et c'était ça que je voulais dire dans le côté de l'art qui mettrait le désordre, c'est l'art qui toucherait à ta sensibilité et pas à ton intellect, tu vois. L'art qui toucherait pas à ton logos et à ta raison. La pensée, c'est à la phonée, donc la voix. t'as le logos, donc la raison et tout ça.
Mais si la voix est opposée à la raison.
La voix est opposée à la raison, dans le sens où la raison, c'est ce qui te permet de réfléchir, de mettre des cadres, tout ça. Ouais. Et la phonée, c'est ce qui va séduire, ce qui va toucher à ton sens.
Et c'est chez Aristote.
C'est Aristote, ouais, qui fait
une dimension très normative aussi, parce qu'Aristote, on connaît sa position sur les femmes.
Oui, mais c'est pour ça que je dis ça, parce que du coup, il met vraiment les femmes dans, du côté de la phonée, et peu importe le discours qu'elles vont faire, c'est pour ça qu'elles n'ont pas accès à la politique. C'est parce que bah, t'as les femmes, t'as les esclaves, et t'as... Ouais. Parce qu'en fait, elles n'ont pas accès à la politique parce qu'elles ont une voix qui met le chaos dans la raison. Il faut pas écouter les femmes. Et donc, c'est pour ça qu'on n'écoute pas les femmes depuis toujours. Et c'est pour ça, avec ton mémoire, Lancelot, sur les femmes kurdes, quand devant l'ONU, elles ont pas autant de force ou qu'on va juste les passer pour victimes, c'est parce que on les écoute pas parce que c'est des femmes combattantes, mais qu'on n'écoute pas parce qu'on décrédibilise, parce que leur voix n'est pas écoutée.
Du coup, c'est trop intéressant parce que ça veut dire que
parce qu'elles rentrent pas dans un prisme. Je suis désolée, elles rentrent pas dans une catégorie que l'ONU reconnaît.
Oui, c'est ça.
C'est grave.
Mais c'est exactement. Mais c'est vraiment la distinction entre phoné et logos, c'est ça. La catégorie légitime de parole, c'est celle qui conduit à la raison, c'est pas celle des femmes kurdes. Les femmes kurdes,
et donc
c'est...
elles rentrent pas dans l'ordre, en fait.
Non, elles rentrent pas dans l'ordre.
Alors que pour autant, l'ONU les connaît. Mais ici, il y a cette différence entre connaître, percevoir et reconnaître.
Mais c'est qu'en fait, elle les connaît, mais elle les reconnaît pas en tant que combattante. Elle les connaît en tant que victime, en tant que femme, en tant
Leur retire de l'agentivité politique.
C'est ça. Et du coup, en fait, elles sont juste là. Mais en fait, eux, ils vont... Enfin, c'est comme s'ils pensaient qu'elles créaient un chaos, mais que leur combat était vain. Enfin, bref.
Mais du coup, ça va avec le chaos, je pense.
Mais ça va avec...
Il y a l'idée, moi je pense que c'est super intéressant dans ce que tu dis aussi.
Je connais trop bien mon mémoire, j'aime trop.
mais j'adore parce que du coup ça veut dire aussi que nécessairement déjà la voix est irrationnelle et donc ça veut dire qu'il y a un rapprochement donc, entre la voix et le chaos dans un certain sens quand même parce que forcément le chaos est considéré comme quelque chose d'irrationnel, de pas ordonné, de pas, il n'y a pas de sens. Mais donc il n'y a pas de raison
mais
non plus.
Mais c'est
tu
pour
vois.
Ça aussi que tout à l'heure je disais que la voix elle était rattachée à une forme de sublime. La voix égale la phonée égale ce qui va contredire le logos, donc la raison, donc l'homme. Et en plus de ça, la phonée égale le sublime parce que égale quelque chose de d'incontrôlable et le sublime égale le dionysiaque, c'est-à-dire le chaos, le vin, le lieu de la fête.
J'adore dire qu'on fait des maths.
Non mais en fait c'est que j'ai fait un raisonnement hyper qui réduit tout, mais je trouve que tout a un lien parce qu'en fait le dieu de la fête, même la fête, on voit bien que c'est un désordre contre la raison qui va toucher à ta sensibilité, à quelque chose de... On fait la... Tu sais, c'est la fête.
Oui, du coup, ça me fait penser à ce moment dans le banquet de Platon où, du coup, ils ont fait déjà une journée, une nuit de fête. Ils sont tous complètement épuisés. Ils ont déjà été bien chaotiques, bien dans la débauche. Et voilà, assez longtemps pour se dire, là, quand ils arrivent au deuxième soir, OK, on va se coucher, on remet de l'ordre, on reprend une routine, on se remet là-dedans. Et il y a Alcibiade qui arrive. Du coup, Alcibiade qui est amoureux de Socrate.
Le beau gosse
de l'histoire qui est amoureux de Socrate. Socrate qui est réputé pour être très laid, donc assez surprenant.
Ça, c'est marrant.
Qui arrive et qui fait une tirade sur l'éros, sur l'importance de, enfin sur l'amour, le désir, etc. L'éros, c'est le désir. Et du coup, qui remet, genre, qui arrive et qui revient bousculer cet ordre, c'est ce semblant d'ordre, tu vois. Et c'est trop intéressant parce qu'il arrive et c'est genre dans un coup d'éclat, etc. Et ça crée une forme de mouvement chaotique autour de lui où tout le monde est là en mode, mais c'est pas prévu, en fait. C'est chaotique comme apparition, littéralement, tu vois. C'est la surprise. Et en fait, en même temps, ça donne une des plus belles tirades sur l'amour qui a jamais été écrite dans la philosophie. Enfin, vraiment, la tirade d'Alcibiade, c'est trop beau, quoi. Et tout ce qu'il dit sur les roses, c'est magnifique. Et il le dit, en plus, alors qu'il est complètement arraché. Enfin, vraiment, le personnage est complètement bourré, quoi. Et pourtant, il dit des choses très poétiques et tout. Et du coup, je sais pas, je trouve ça trop intéressant. Ça va avec ce que tu disais, tu vois, le côté... Il met de l'ordre
dans de la fête.
C'est ça. Et puis même, il met de l'ordre dans sa pensée chaotique de gars complètement ivre, quoi. Et je trouve ça génial. Et en plus, du coup, ça va avec la fête. Et au final, ils se retrouvent tous à boire et à refaire la fête une nuit de plus. Donc, je sais pas. Mais je sais plus pourquoi. J'ai rebondi sur toi.
Parce qu'on parlait de la phonée et tout ça, mais. Enfin, de dionysiaque, de la fête, que la fête, c'était ça qui faisait le désordre et tout ça, mais qu'en fait, la fête, c'était ça qui était beau aussi.
Ouais, et d'ailleurs,
et là, c'est le cas, du coup.
Ce qui est super, c'est qu'à la fin aussi de cette nuit-là, Socrate se retrouve à avoir une énorme discussion sur l'amour. Tout le monde s'endort et tout au fur et à mesure de la nuit. Et Socrate se retrouve à avoir une discussion sur l'amour, etc., avec je sais pas si Alcibiade, je sais plus, mais avec d'autres personnes du banquet. Et pareil, ça donne une réflexion très philosophique, très poussée, alors que le gars a pas dormi depuis 2 jours. Donc c'est super intéressant aussi de voir comme la raison peut advenir dans des moments super chaotiques, tu vois. Ça serait bien quand même de parler du coup du colonialisme.
Le chaos que là on aimerait développer, c'est plus un chaos politique, mais un chaos plutôt dans le sens de la légitimité.
C'est ça, en fait c'est un outil.
Ça serait plutôt, on invente l'idée qu'il y a un chaos quelque part pour ensuite pouvoir amener l'ordre.
Mais ce qui veut pas dire que des fois il n'y a pas des chaos et effectivement un ordre. Par exemple, la révolution, d'une certaine manière, c'est une forme de chaos, où après il y a un nouvel ordre qui s'installe. Et bon, cet ordre est légitime ou non, ça c'est en fonction des cas, j'en sais rien. Mais par contre, le cas des autochtones et tout ça, comme on a dit tout à l'heure, la colonisation, c'est tout sauf un chaos légitime, enfin un chaos qui légitimise
une, je pense que la posture par rapport au chaos est différente. C'est pas la même chose que quand tu crées une révolution, puisque là en fait ils arrivent sur des terres et ils voient les autochtones vivre différemment de la manière dont eux ils vivaient.
Exactement.
Et donc en fait ils se disent, ah c'est chaotique, c'est une société archaïque, une société qui n'a pas d'ordre et qui n'a pas d'hierarchie. Et c'est juste parce qu'en fait ils n'ont pas les clés de compréhension, ils n'ont pas les concepts pour comprendre comment ça fonctionne et ça leur plaît pas.
Ouais, mais
et ils veulent imposer leur ordre à eux pour pouvoir aussi.
Tu vois, je suis même pas sûre qu'ils comprennent. Enfin, je pense que oui, ils comprennent pas évidemment, mais le truc de dire genre Terra Nullius, c'est genre vraiment terre sans maître. Mais sauf qu'il y a des gens, ils ont constaté qu'il y a une collectivité, il y a une communauté, ils ont des lois, les autochtones, des lois non écrites, mais ils ont des lois, ils ont des pactes, ils ont des terres,
donc je pense
ils ont des coutumes.
Il faut remettre aussi, tu sais, dans le contexte, tu vois, par exemple, pour ces premières colonies, il y a une pensée religieuse chrétienne qui est genre très très forte. Et c'est l'idée de vraiment devoir évangéliser.
Oui, non mais
ce qui est très intéressant, c'est que tu vois que en fait, le chaos, là, il advient. Genre l'idée même qu'il y a un chaos de base sur ces terres qui viennent coloniser.
Il advient d'un point de vue politique.
Oui, et en fait, du coup, il advient aussi l'idée que, en fait, ça me fait penser à Kuhn et aux différents paradigmes scientifiques. Mmh. En fait, juste là, ils n'ont pas les mêmes paradigmes de compréhension du réel. Mmh. Et en fait, t'as deux paradigmes qui s'opposent. T'en as un qui est beaucoup plus violent que l'autre, parce que t'as le paradigme du colonisateur, avec l'idée que, si tu dis une terre sans maître, ça veut dire qu'il y a vraiment déjà la conception, l'idée que la terre doit être dominée, doit être maîtrisée, alors que probablement, peut-être que dans ces sociétés-là, ça dépend de quelle société on parle, mais peut-être qu'il y avait une autre manière d'aborder la terre et de vivre peut-être plus. Bon, après, c'est aussi, faut pas aller non plus dans les stéréotypes de l'harmonie parfaite avec la nature, machin, mais probablement qu'il y avait aussi des sociétés qui vivaient moins dans une logique de domination et moins dans une logique, mais plus dans une logique de respect des terres, etc. Et donc, il y avait pas forcément le même paradigme, mais eux, ils sont arrivés en se disant, ils ne maîtrisent pas leurs terres, ils les dominent pas, alors c'est chaotique.
Mais après.
Mais c'était pas forcément comme ça, probablement que ces personnes-là le vivaient du
mais
tout.
Mais surtout que, déjà, enfin là, je prends l'exemple des autochtones au Canada, mais c'est la couronne qui est dans une volonté fondamentalement coloniale, en fait.
Et en plus, je pense qu'ils ont donné, c'était aussi une excuse, tout simplement le chaos, pour imposer juste quelque chose qu'ils voulaient imposer.
Mais c'est que surtout, encore maintenant, il y a les traces de tout ça, parce que leur constitution, elle est toujours fondée sur ce chaos originel qui serait la terre sans maître. Je veux dire, encore maintenant, cette constitution.
Tu parles des États-Unis?
Non, je parle du Canada et du Québec.
Canada, pardon,
du Canada et du Québec, mais en fait, c'est tellement compliqué à expliquer parce que.
Les États-Unis, c'est aussi
la même chose.
On massacre.
Mais le problème, c'est que tu vois,
ce
que vous dites là, c'est genre, je comprends ce que vous. Oui, évidemment, pas le même paradigme et tout ça.
Moi, je parlais des Portugais.
Je pensais au Canada, on pense tout ça. Oui, il y a des colonies partout.
Moi, je pense toujours aux États-Unis parce que pour moi, c'est genre le plus gros pays.
Ah ouais, moi, d'office, je pense aux Portugais.
Moi, je pense au Canada.
Après, c'est vrai que les Portugais, ils ont quand même colonisé l'Amérique du Sud, une grosse partie de l'Amérique du Sud.
Mais
quand même, tu vois, les États-Unis, c'est un pays qui s'est forgé sur un génocide massif. Et sous prétexte, justement, de. En fait,
mais
on
y a
une.
Un remplacement de population, surtout.
Moi, ce que je pensais, c'était surtout.
Génocide, massacre pour remplacer la population.
Quand vous dites.
Imposer sa constitution,
quand vous dites que c'est deux paradigmes, oui, mais tu vois, par exemple, la constitution du Canada, elle a encore des soucis avec le droit autochtone.
Okay.
Et du coup, ça montre qu'il y a aussi encore. Après, ça dépend. Ils ont essayé de faire évoluer la chose et tout ça, parce que du coup, on ne peut pas remettre en question toute une constitution sur un fondement illégitime basé sur un chaos prétendu qui, au final, n'en était pas un, tu vois. Sauf que le problème, c'est OK, on doit garder cette constitution parce que sinon, tout tombe. Sauf qu'il faut peut-être la remettre en question et l'appliquer autrement. tu vois, la revoir et tout ça. Et c'était toute une question sur l'interprétation du juge. Comment est-ce que le juge va interpréter la Constitution ? Est-ce qu'il l'interprète selon, ça s'appelle la théorie originaliste, donc en gros selon la volonté du créateur original, du coup une volonté coloniale. Sauf que maintenant ça marche plus, parce que si tu veux interpréter la Constitution comme la volonté du colonisateur original, genre, c'est-à-dire celle du truc de fonder un nouvel État et tout sur une terre vide, alors que toi, maintenant, en tant que juriste, enfin, en tant que juge, tu sais que la terre, elle n'était pas vide et que ce n'était pas le cas, bah, ça veut dire qu'en fait, tu reproduis la colonisation. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça que je veux dire, c'est que peut-être qu'à un moment, cet argument, il était légitime pour fonder, parce que juste, il n'y avait pas d'autres...
Je
ne
sais pas s'il était légitime à un moment.
Non,
c'est
il
comme ce que
pas,
je
mais...
disais, c'est que genre, la légitimité, c'est un truc qu'on s'octroie. Et à ce moment-là, aussi, il y a aussi... Je pense qu'il y a c'est des stratégies cognitives et politiques mises en place par les colonisateurs. Aussi, parce qu'il y avait, en plus de ça, la découverte... Je pense que aussi, ce qui est intéressant, c'est que la découverte du chaos, ou genre la découverte d'un nouveau chaos dont on n'avait pas connaissance, ça va, c'est la découverte de l'étranger, en fait, tout simplement. Et je pense que ça va avec la découverte de l'altérité et de l'inconnu, et juste en fait ils sont arrivés face à quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. C'est ce que je disais avec le paradigme. Mais en fait, vu que aussi, tu vois, enfin, il y avait ce truc de, on les connaît pas. En plus, ils ont pas la même couleur de peau que nous. Ils ont pas les mêmes modes de vie. Il y a aussi une impression de supériorité.
Évidemment, mais moi, je te parle au moment où ils ont découvert.
Qui est pas légitime en soi. Mais...
Je te parle pas du moment où ils ont découvert. Je te parle de maintenant. Comment est-ce que leur constitution continue d'une certaine
là,
manière,
moins légitime,
à parfois, ou du moins de manière un peu indirecte, à être coloniale. Tu vois.
Oui. Puis même, du coup, ça pose même la question de, est-ce que c'est des États légitimes
Parce
de base
qu'en fait, il y a encore un gros débat sur les autochtones et leur droit de territoire, en fait. Genre par rapport aux zones de pêche et ce genre de choses-là. Et il y a eu des gros conflits avec... Oui, mais c'est ça. Et en fait, le truc, c'est comment est-ce que tu interprètes une constitution coloniale au regard d'une personne éveillée. Enfin, d'une époque éveillée.
Est-ce qu'on
ne
devrait pas remettre un peu de chaos, entre guillemets, tu vois, ça veut rien dire. Mais du coup, se détacher
faut
de
tout
l'ordre. Voilà. En fait, c'est là qu'on voit bien qu'en vrai, maintenant, bah, l'ordre, il est établi à plein d'endroits et il est nécessaire au fonctionnement de plein de sociétés.
J'ai cru qu'elle était partie.
Ah ouais, moi aussi. Parce qu'il y a un reflet, je vois pas.
Oui, c'est pour ça qu'il y a un reflet. Elle est là. Ouais.
Mais
notre chère amie Roxane qui est en train de regarder si tout se passe bien en régie.
mais ouais, tu vois, je pense que voilà, à l'époque, peu importe les raisons qui se sont données, c'était probablement, enfin moi je considère que c'était pas légitime, mais bon, voilà, ça a été établi. Maintenant, il y a un ordre qui est établi. On peut prendre ça aussi si on sort de l'idée de la colonisation. Dans des pays comme la France, c'était pas un pays colonisé, c'était un pays où il y a eu plein de guerres, plein de luttes de territoire, etc. Mais c'est pas la même dynamique. Y a aussi un ordre qui est établi. Mais l'ordre, il est injuste à plein d'égards envers plein de populations, plein de minorités, etc. Typiquement, la justice, si on choisit un type d'ordre, parce qu'en fait, l'ordre, il y a plein de types d'ordres différents. T'as l'ordre politique, l'ordre juridique, enfin voilà, il y a plusieurs paradigmes différents qui régissent notre société. L'ordre juridique, il peut être considéré comme chaotique, désordonné, injuste à plein d'égards. Enfin, je sais pas si on peut dire chaotique. Il est ordonné, mais il n'est pas ordonné de la bonne manière pour certaines personnes, tu vois. Et on peut se dire des fois, c'est peut-être nécessaire de changer de paradigme, de se dire bah ça c'est perçu comme quelque chose de chaotique. Typiquement, tu vois, je pense par exemple au truc de légitime défense, qui est par exemple, enfin non, c'est pas au truc de légitime défense, c'est au truc de à la loi de comment on appelle ça. Présomption d'innocence. C'est un truc qu'on rabâche en permanence dans les affaires de viol, etc., machin, dans les affaires d'inceste même. Sauf qu'en fait, bah, on voit bien que même si c'est un principe qui est très très important dans l'ordre juridique français, bah, en fait, ça fonctionne pas dans tous les cas. Et des fois, ça crée des situations injustes, voire chaotiques. Parce que
c'est une loi du chaos. Enfin, c'est du désordre, en fait.
Bah,
défendre sur quelque chose qui n'est pas.
C'est un principe qu'on considère comme ordonné et qui fonctionne dans plein de moments. Mais par exemple, dans le cas de l'inceste, ça va être un exemple un peu glauque. Voilà. Mais j'avais écouté un podcast d'une mère qui expliquait que sa fille, elle s'était rendue compte que sa fille, donc elle s'était divorcée de son mari parce que son mari était violent. Mais sa fille devait déjà toujours voir son père. Déjà, ça c'est encore une question de est-ce que déjà dans la loi c'est normal. Bon, c'est normal, le droit du père de voir son enfant et tout. Sauf qu'elle s'est rendue compte que sa fille se faisait abuser par son père, quoi, sexuellement. Et donc en fait, elle a porté plainte. Sauf qu'en fait, la présomption d'innocence et le droit parental à voir son enfant, en fait, imposait à la gamine de continuer à aller voir son père. Et la loi disait non, présomption d'innocence, cet homme n'est pas reconnu comme coupable, donc il va continuer à voir sa fille. Sauf qu'en fait, bah là, déjà, on se dit, c'est injuste. Ouais, ouais. Et en fait, tu te dis, bah, l'ordre, des fois, est absurde. Mmh. Et alors même qu'on pense que c'est le chaos qui est absurde, c'est les normes et les principes qu'on a imposés qu'ils deviennent. Et donc, en fait, des fois, tu te dis, est-ce qu'il faudrait pas faire des écarts un peu chaotiques? Bon, là, je fais un peu un abus de langage, mais si, c'est des choses qui pourraient paraître comme chaotique pour les personnes qui ont étudié le droit, dire bah non, là, la présomption d'innocence, oui, elle existe, mais il y a d'autres principes qu'on peut mettre par-dessus, ou il y a d'autres règles qu'on peut inventer pour protéger cet enfant de son père.
Tu vois, c'est ça le problème. Au cas où, tu vois. Avec le droit de base, je trouve, c'est que ça s'encourage soi-même dans la norme.
Ouais.
Et le problème, c'est que normatif. Le droit, c'est fait pour évoluer, parce que tu vois, par exemple, je sais pas, l'avortement, à un moment donné, c'était pas légal, maintenant c'est dans la Constitution, tu vois. Mmh. C'est pareil avec la peine de mort, à un moment donné, la peine de mort c'était ok, maintenant ça l'est plus. Donc le droit, il évolue, mais il évolue de manière, enfin toujours cadré dans un ordre, tu vois. Faut que l'ordre juridique soit ok pour faire évoluer la norme juridique, tu vois.
Enfin, en fait, c'est pour ça que c'est un... Je pense que ce qui est tricky, c'est vraiment comment réussir à créer un ordre flexible et un ordre qui ne nie pas complètement l'absence, l'existence justement de spécificités, de cas précis, et donc aussi d'anomalies, on va dire, dans les règles.
On a beaucoup parlé du coup de la définition du chaos, mais en fin de compte d'un chaos créé par les hommes, quand on parlait des colonies. Et donc du coup, déjà on pourrait se baser, on pourrait être en accord pour dire que ça c'est pas un chaos naturel, mais on peut parler du coup d'un chaos synthétique. Parce que je trouve que ça peut être intéressant.
Artificiel.
C'est ça, ouais. Mm. Grave artificiel, puisque c'est une invention. Mais c'est trop marrant, genre. Et ensuite, aussi, ce que je trouvais utile, puisqu'on était vraiment là dans la continuité politique de la détermination de ce qu'est un chaos, je voulais parler de Proudhon.
Tu vois. Okay.
Donc, full anarchisme et tout. Et pour lui, lui, dans sa réflexion, va s'opérer un retournement radical à la définition du chaos, puisque c'est ce qu'il a écrit. Il pense que, en fin de compte, est-ce que l'ordre imposé ne serait pas plus violent que le chaos prétendu?
Okay.
Et donc, vraiment, de la nature de l'anarchisme, l'anarchisme n'est donc pas le désordre, mais l'ordre spontané sans domination. Donc, il y a toute cette question, c'est ce qu'en fait, ça permet de rattacher ce qu'on avait dit au tout début, en fait. C'est est-ce que l'être humain ne crée pas le faux chaos qui est pire que le chaos, qui détruit la liberté qu'on aurait dû vivre au travers du chaos, tu vois.
Pour retourner à l'état de nature.
Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est. C'est aussi là la limite, du coup. Tu vois, quand tu dis ça, tu dis ça en rigolant. Mais en vrai, je suis pas.
J'ai envie de me balader toute nue.
Tu vois, je suis pas.
Il s'en paye.
Voilà, je suis pas contre ce que dit Proudhon, je trouve ça super intéressant. Mais en vrai, oui, si tout le monde commençait à se balader tout nu dans la rue, ça serait quand même un peu compliqué. Si tout le monde commençait. Enfin, tu vois, si tout le monde pouvait vraiment faire ce qu'il voulait, bah malheureusement, on peut partir du principe que la nature humaine est bonne. Moi j'ai tendance à penser que sur les positionnements philosophiques, il y en a qui vont dire genre typiquement Hobbes, non, l'homme est mauvais, et en fait l'état de nature c'était horrible et tout le monde se tirait dans les pattes, et il y en a d'autres qui sont là
en mode Léviathan en plus.
Ouais, voilà, c'est ça. Et t'as Rousseau qui est là en mode non mais en vrai il y avait un état où ça allait, tu vois, l'état de nature, on était tout gentil, tout... Bon, heureusement que le contrat social était là quand même, mais enfin, bref, voilà, en vrai ça dépend de la conception que t'as de l'homme. Moi j'aurais plutôt tendance à dire que la nature de l'homme et pas mauvaise par essence, et que juste en fait il y a du mal et du bien et du mal en nous,
ben c'est ça.
Après, et que ça dépend Proudhon, des conditions,
ouais.
Mais là à l'instant T t'as quand même des gens qui ont envie de faire des choses malveillantes. Si tu, si tu retires l'ordre d'un coup, il y a de fortes chances pour que il y ait de la destruction et des machins. Mais je pense que les anarchistes souvent ils pensent ça comme un truc de c'est un mal nécessaire.
Bah en fait tu vois là en l'occurrence
un chaos nécessaire,
Proudhon,
en fait.
Genre il dit tout ça parce que c'est vraiment l'idée de d'expliquer qu'en fin de compte toute l'ordre qui a été imposé, toute la violence légitime, violence symbolique, enfin tout ce qui est construit dans la société dans laquelle on vit est potentiellement, et le débat existe de forcément, plus violent que le chaos, que soi-disant le chaos que les politiciens l'extrême on l'entend, tu vois, genre chaque jour que Dieu fait, c'est l'idée que il faut nous protéger du chaos, donc on instaure l'ordre. Mais en fait, quand est-ce que le chaos ne serait pas plus
et en fait on entretient
réel
un mythe,
et sensible que l'ordre qu'ils sont en train de nous imposer, tu vois.
En fait ça va, en fait avec ça se rapproche de, à ce moment-là, enfin tu vois ce dont il parle, le truc, l'ordre qui est imposé par les instances politiques, etc. En fait, il est légitimé par le mythe justement de l'existence d'un état de nature comme celui pensé par Hobbes. Donc, l'existence d'un état de nature
là,
qui serait super violent.
Et là, on revient au premier podcast, l'un des premiers podcasts qu'on avait fait cette année, c'est l'idée de gouverner les populations par la peur.
Ouais.
Tu vois, on avait parlé de ça en politique.
Et donc, c'est aussi l'idée que nécessairement, s'il n'y a pas d'instance ultra, d'instance supérieure et de contrôle social des masses qui est ordonné et même trop rigide parfois et violent, bah à ce moment-là, les masses ne savent pas se tenir, les gens ne savent pas se tenir, et tout va mal se passer.
Ouais.
Et je pense que ce que je te disais, c'est qu'il y aura forcément de la violence qui adviendra.
Oui, évidemment.
Mais pas que, quoi. C'est aussi possible qu'il y ait de la coopération, qu'il y ait... Et c'est un truc, en effet, qui est intéressant, parce qu'on n'a jamais vraiment vu ce chaos advenir pour de vrai.
Ouais, bah c'est ça.
La révolution, c'était un espoir de ça, mais est-ce que même ça existe? Est-ce que c'est vraiment possible d'instaurer un chaos? Est-ce qu'il n'y aura pas toujours quelqu'un qui essaierait d'instaurer un ordre?
Tu vois, justement, est-ce que le chaos, ça ne serait pas l'ordre si on ne peut pas parler comme George Orwell en mode la guerre, c'est la paix? Parce que tu vois, par exemple, ça me fait penser à là, ce qui se passe en Russie.
Ouais.
En fait, Poutine, maintenant, la guerre, c'est ce qui lui permet à son pays de vivre. Genre, sans la guerre, il n'y a plus son économie, il n'y a plus... Donc en fait, la guerre qui est censée être un chaos, c'est l'ordre de son pays repose sur la guerre.
Tu vois ce que je veux dire ? Le chaos partout pour garder de l'ordre dans son pays.
Je pense que c'est juste que là, c'est un cercle vicieux. C'est, en fait, sa guerre et son chaos et son ordre et son pays fonctionnent en fonction de cette guerre. C'est toute une... C'est comme le capitalisme. Voilà.
Mais en vrai, je rigole pas.
Parce que le capitalisme et le libéralisme, c'est la même chose dans le sens c'est un chaos légitimé et un chaos qui permet un ordre dans lequel on vit et dans lequel on
broie les foules. Surtout, c'est le pire, c'est que tu broies les foules dans un chaos perpétuel. Et quand tu regardes, par exemple, les discours du Rassemblement National sous Le Pen, enfin le père, il n'a développé que de la haine, en fait.
Ouais.
Et genre un développement, tu vois, d'un inconnu qui est forcément néfaste, qui est forcément mauvais.
Du coup, au final, il crée déjà du chaos dans la société à l'instant T. Parce qu'en fait, quand tu crées de la haine en créant un ennemi imaginaire, un étranger imaginaire qui est du coup aussi un étranger chaotique imaginaire, tu crées déjà du chaos dans la tête des gens et dans leur comportement parce que tu crées des anomalies et de la violence et de la haine. Et
George Steiner, il disait que ce qu'on ne nomme pas n'existe pas. Mais alors on peut très bien faire l'inverse, ce qu'on nomme existe. Et donc quand t'as des personnages comme Le Pen, Poutine ou qui tu veux d'autres qui développent des discours beaucoup trop radicaux dans une idée d'opposer les individus les uns aux autres, que ce soit au travers de la guerre, au travers d'une haine systémique, raciale, pour je ne sais pas quelle raison, ils créent le mal en fait. Et donc, il crée ce chaos synthétique ou artificiel pour, en fin de compte, légitimer l'ordre.
Et moi, ce que je trouve intéressant, du coup, c'est que ce que tu disais là avec Poutine et avec le capitalisme et tout, c'est l'idée qu'en fait, dans tous les cas, et c'est ce qu'on dit depuis le début, le chaos et l'ordre, c'est interdépendant. Il y a toujours l'un et l'autre, et l'un se nourrit de l'autre, mais ça fonctionne pas, et c'est néfaste, je pense, et c'est dangereux. Quand il y en a un qui prend plus de place que l'autre, et aussi quand il y en a un qui a une portée, une charge négative, ou quand les deux, en fait... Enfin, je pense que c'est détaché, par exemple, de l'idée d'un certain ordre moral. Parce que, tu vois, moi, je pense que je suis pas forcément contre l'idée de l'anarchie, etc. Par contre, l'anarchie politique, oui, mais l'anarchie morale, non. Je pense qu'il y a, tu peux distinguer aussi les deux. Et je pense qu'il y a quand même la nécessité aussi de maintenir un ordre moral. Parce qu'en fait, s'il y a plus d'ordre moral, pour le coup, l'ordre moral, c'est quoi? C'est genre, ne blesse pas autrui. Enfin, c'est des principes un peu de base, tu vois.
Mais on y retourne toujours parce que le droit, c'est ça.
Et en fait, je pense que la vraie. C'est pas que ça, le droit. Mais ça s'est fondé autour de valeurs.
Ouais, voilà.
Et je pense que si t'as pas de communauté de valeurs, si t'as pas, genre, quand même un fondement et un ordre. Parce qu'en fait, on est des êtres sociaux, donc on a besoin de ça.
Il faut se fixer sur une base commune.
Voilà, et une base, mais pas nécessairement une base politique, mais vraiment une base morale de... Il y a certaines limites qu'il ne faut pas dépasser, et quand tu fais ça, t'es un danger pour toi-même et pour les autres. À partir du moment où tu deviens un danger pour toi-même, ou pour les autres, ou pour les deux, c'est là qu'il y a une limite qu'il ne faut pas dépasser.
Ouais.
Et c'est pour ça que, tu vois, encore une fois, le chaos, il y a des limites à tout. Je pense que le chaos est tolérable quand il y a quand même... une base morale, éthique.
Mais le chaos, le problème, c'est qu'il fait le malheur de beaucoup de monde et le bonheur des uns, tu vois. Genre, par exemple, Hitler, il avait fait... comme ça, au moins.
Comme ça.
Non, mais Hitler avait fait des accords et s'entendait très, très bien avec le grand mouftique de Jérusalem, avec lesquels ils ont été proches et ils ont fonctionné dans une politique commune. Mais tu vois, pour simplement que l'un et l'autre trouvent genre son bonheur en fait dans les, la politique qu'il applique. Mais donc en fin de compte, c'est le absurde. Chaos sourit au pire des gens.
Ouais. Moi, je pensais aussi quand on parlait du capitalisme. Le fait que le chaos, c'est aussi tu l'acceptes quand t'es dedans, genre dans l'habitude. Ouais. Le chaos est une habitude. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le capitalisme, c'est une chaîne de production qui est chaotique. Enfin, moi, selon moi, c'est chaotique. Pourtant, enfin, on le vit tous. On est tous dedans.
Une illusion d'ordre. Mais oui. L'idée du chaos, elle est intéressante parce qu'en fait, ça nous donne une illusion d'ordre, mais on voit aussi le bout. On voit bien que plus ça avance, plus il y a des violences, plus il y a des choses, des dysfonctionnements,
mais que ce soit la...
et que ça va peut-être mener à un chaos général. Et c'est un peu la peur de beaucoup de gens.
Mais oui, mais même
l'effondrement, quoi.
Même maintenant, je trouve que c'est un chaos. Enfin, quand tu vois la chaîne de production, les conditions de travail, rien que ça, tu peux pas dire que c'est pas un chaos. Genre, c'est un chaos la manière dont, chaos dans le sens où c'est organisé, mais c'est un chaos social. C'est un,
un chaos dans le sens où c'est absurde. Tu veux dire
oui, dans le sens où c'est absurde. Oui, c'est ça.
Ça, c'est un chaos. Ça promet un équilibre, mais qui est faux.
Ça peut être intéressant l'idée que le capitalisme est chaotique. Moi, j'irais plus loin dans ce que tu dis. Ce qui m'intéresse, c'est le côté genre, oui, c'est un chaos. En fait, je reviens au truc de la morale. Pour moi, c'est un chaos moral et éthique.
Oui, c'est ça que je te parle.
Il n'y a aucune éthique en fait.
Parce qu'en fait, ils viennent en mode oui, c'est l'ordre, oui, tout le monde en bénéficie et tout, mais c'est faux.
Et en fait, on te justifie des inégalités
et tu vis dedans. Oui, et tu vis dedans et par habitude de ce chaos organisé. Et bah, tu l'accèptes,
c'est ça,
et
tu l'entretiens.
Et même nous, là, on est en train de l'entretenir.
Et pourquoi c'est un chaos? Parce que, en fait, il y a des hiérarchies. Et après, du coup, l'idée du chaos, c'est quand même l'idée soit c'est un désordre, et donc c'est le bordel et machin, soit c'est rien. Et là, je dirais que, on pourrait dire que, en apparence, il y a un ordre, ce que tu disais, genre, et donc c'est un chaos, en fait, c'est un chaos ordonné, dans le sens où, quand même, il y a des hiérarchies, etc. Mais c'est chaotique, dans le sens où c'est des hiérarchies qui n'ont aucune justification, enfin, aucun fondement légitime. Dans le sens où c'est pas, enfin c'est complètement immoral, tu vois, d'exploiter certaines personnes pour faire de la richesse sur leur dos, etc. Que typiquement, pareil, la valeur travail, enfin la valeur travail, déjà ça veut rien dire, mais c'est la valeur numéro un du système capitaliste, c'est la force de travail, c'est vendre sa force de travail, et c'est ça qui entretient le système. Et en fait, si tu le fais pas, t'as aucune valeur dans le système capitaliste. Si tu travailles pas, t'es juste rien. Et en fait, on te fait croire que c'est la même partout, sauf qu'en fait, un travailleur qui travaille en Chine et qui est payé genre 10 centimes de l'heure, la valeur travail n'a pas la même signification, n'a pas le même retentissement dans sa vie. Le travail n'a pas la même dimension, la même importance dans sa vie que quelqu'un qui est payé 10 euros de l'heure en France.
En fait, c'est simple. Pour la même tâche. Et ça, il y a un exemple, tu vois, genre un effet papillon de fou.
Donc c'est ultra chaotique au final, parce que c'est juste une question d'aléatoire, de où est-ce que t'es né dans le monde et quelles sont tes conditions de vie de base. Et ensuite, après, on va dire, bah voilà, du coup, t'es né là, donc tu seras payé tant et tu feras tel job. Ouais. Et en fait, c'est comme ça, c'est l'ordre des choses.
C'est ça que je disais, c'est un fonctionnement chaotique. C'est un fonctionnement chaotique sous couvert d'un ordre dans lequel on le vit.
Et c'est chaotique parce que
les deux sont la même
temps.
Chose, tu vois. Oui, parce que par exemple, on fait un effet papillon de fou, les vêtements chinois. On sait tous que c'est fait par des enfants, des familles qui dorment dans une pièce de 2 mètres carrés en Chine et tout, machin. Ce qui est drôle, c'est que ce vêtement, il vient. Donc, il a été créé dans une situation de chaos intense, mais un chaos genre synthétique, parce que créé par l'homme et un ultra-capitalisme, qui est pris. Il est développé, ce vêtement. Il va être envoyé en Europe, répandu en Occident, en France, à Paris, dans le Marais, au BHV, tu vois. Et il est mis en ordre, que ce soit dans les étagères ou dans la pensée des individus qui viennent travailler pour vendre des vêtements chinois. Et tu vois, et c'est normal. Et à la fin, les gens, ça répond à un besoin des gens qui ont travaillé pour faire la queue pour aller acheter des vêtements, mais des vêtements chinois qui sont créés dans du chaos, donc dans du désordre.
Et en fait, au final,
c'est trop bizarre.
On revient tout le temps à l'effet papillon, mais parce que c'est trop intéressant. En vrai, genre, les enfants qui produisent ces habits, c'est des papillons, et les personnes qui achètent ensuite, c'est le retentissement de ça. Et en vrai, le chaos, il se propage même à ce moment-là. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on pense qu'il n'y a plus de chaos, mais en fait, le chaos, limite, il prend vraiment. Il devient vraiment réel et ça devient vraiment chaotique à partir du moment où t'as des gens qui normalisent le fait qu'il y a des enfants qui font ça et qui achètent ces vêtements, parce qu'en fait, le chaos moral, en tout cas, il est présent à ce moment-là. C'est-à-dire que, en fait, dans un sens, bah voilà, t'as des enfants qui travaillent en France. Si on apprend qu'il y a des enfants de 6 ans en France qui sont mis au travail dans une usine, on va tous être révoltés et on va être là en mode, mais ça va pas la tête. Et même probablement plein de gens qui achètent des habits chinois qui vont dire, ah non, mais c'est immoral.
C'est le chaos, ça
a aucun sens. Par contre, là, on achète des trucs qui viennent ailleurs, donc on voit pas le début de la chaîne, et on se dit, c'est normal, c'est l'ordre. Alors qu'en vrai, c'est ultra chaotique sur le plan moral, c'est la même chose qu'un enfant qui travaille en France.
C'est ça, parce que du coup, ça voudrait dire que ce chaos synthétique, ce chaos artificiel, et au terme de la société de consommation, de la politique, des partis politiques, tu vois, fonctionne donc sur un invisible, une partie où l'individu ne se rend pas compte, en fait. C'est-à-dire qu'on ne se rend, c'est-à-dire qu'on vend, on menace les individus de quelque chose qu'on ne connaît pas, en fait, qu'on ne voit pas, que ce soit les enfants qui travaillent en Chine, ou que ce soit Jean-Marie Le Pen qui parle de migrants
et du coup, on nous fait
qui seraient des ennemis, genre.
On normalise aussi, tu vois, ce truc-là, et le processus de normalisation, il passe aussi par le fait de se dire, voilà, vous êtes né au bon endroit, dans l'ordre, vous êtes au bon endroit dans l'ordre, donc acceptez l'ordre, parce que vous avez le bon endroit, vous avez des privilèges. Pourquoi vous essayeriez de tout renverser et de créer du chaos alors que l'ordre, il est favorable? Et en fait, c'est marrant. Finalement, le plus gros des chaos se cache derrière... la meilleure organisation. Ouais. Et l'ordre le plus millimétré. C'est ça qui est super paradoxal. Vous allez écouter Désenchanté de Mylène Farmer. D'écouter Désenchanté de Mylène Farmer. Moi, je suis un peu partisan, je suis très partisan de la déconstruction. Pour moi, c'est l'exemple même d'un chaos contrôlé et maîtrisé, la déconstruction. Parce qu'en gros, Derrida, bon, j'ai fait mon mémoire dessus. On aura parlé chacun de nos mémoires comme ça. Ouais.
Ah, ça. Et Derrida, j'aime beaucoup.
Vive Derrida, je l'adore. C'est lui qui a théorisé le concept de déconstruction.
Okay.
Et c'est trop intéressant parce qu'en gros, de base, c'est une fille du langage. Lui, il explique que notre langage et donc notre pensée, parce que le langage influe la pensée, sont construits sur des pôles binaires. Donc des oppositions entre chaud, froid, féminin, masculin, tout ça. Mais sauf qu'en fait, pour lui, ça restreint le réel. Donc c'est un ordre du langage, un ordre de la pensée, qui, en fait, nous empêche de voir la complexité du réel et nous éloigne finalement de lui, parce que en fait, ça nous pousse à l'objectiver et donc à le réduire à quelque chose qui n'est pas... On retire la complexité. Et typiquement, Butler, ensuite... Si on est inspiré aussi pour sa théorie du genre, en disant, bah oui, en effet, c'est ça la déconstruction. Et en fait, pour lui, la déconstruction, du coup, c'est d'opérer un décalage entre ces pôles binaires et de trouver ce qu'il y a entre ces trucs-là. Les notions, les concepts qu'on peut inventer ou qui existent déjà, qui se situent entre ces pôles pour montrer que ces pôles, c'est vraiment deux extrêmes, mais qu'au milieu, il y a une infinité, il y a un spectre de possibilités. Ouais. Et typiquement, bah voilà, c'est comme ça que, bah après... Il y a Butler qui en vient à déconstruire le genre et à dire le masculin et le féminin, c'est deux pôles. Mais l'existence de personnes intersexes nous prouve que, enfin, il n'y a pas juste des hommes et des femmes. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, pour moi, le geste de la déconstruction est super intéressant parce que ça instaure du chaos dans quelque chose qui, de base, est ordonné, dans notre pensée, dans notre manière de voir le monde, dans notre langage.
Mais pour remieux fonder.
C'est ça, pour remieux fonder. Et en fait, c'est un geste. En fait, c'est aussi le geste de philosophie, le geste philosophique, par définition, tu vois, de juste. On remet en question quelque chose. de manière rationnelle pour recréer quelque chose. Et c'est une sorte de chaos maîtrisé qui permet de s'adapter à l'évolution du réel aussi. Voilà. Et ouais. moi, je voulais en parler parce que je pense que c'est
Je suis fan et je pense que t'as totalement raison.
Là, ouais, voilà. Franchement.
Vive la déconstruction. Et c'est un clap de fin pour Radio Chum, oui. Pour cette quatrième saison.
Cette ouais. dernière année, là.
L'année Chum. S'arrête, là, 2026-2027.
Ouais. Elle et se termine dans un beau chaos.
C'est oui. ça. C'était très intéressant.
C'était cool.
On vous remercie de nous avoir écoutés autant que vous êtes pendant cette année. Et
ouais, puis même honnêtement, entre nous-mêmes, c'était un exercice super intéressant. Voilà. C'était vraiment bien.
Très enrichissant, passionnant. Et on a hâte de vous retrouver l'année prochaine.
Mais avec plaisir. Oui. Au détour des couloirs de la fac française. Ah, je sais pas.
Au détour de vos oreilles.
Ou sur Spotify à 10h. Hein, aussi. Oui.
Vous venez d'écouter Radio Opium, diffusé un dimanche sur 4 sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Au micro, vous avez entendu Marianne Warem, Lance Aubanon et Lou Fontana.
Radio Opium est un podcast hébergé par Acast, produit par Radio Campus Paris et Opium Philosophie. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes de streaming telles que Spotify ou Deezer, et vous pouvez évidemment nous contacter à l'adresse mail opium.radioopium@gmail.com et via l'Instagram
d'Opium
Philosophie, effectivement. Oui.
Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.
Ça fait un vrai plaisir.
Bisous.
Bisous.